Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, Marinetti et le manifeste futuriste.
Dans cette série consacrée aux manifestes qui ont changé le monde, Filippo Tommaso Marinetti tient une place particulière. Donc il ait été le premier à lancer des manifestes, mais il est indéniablement celui qui en a fait un art de fondation, la pierre angulaire d'une avant-garde littéraire ou artistique. Cet art de faire des manifestes, je le possède, dira-t-il plus tard. Et le lancer de manifeste, il en usera, voire en abusera. Personnage haut en couleur que ce Marinetti, aussi contradictoire qu'inventif. Le siècle naissant, le 20e, doit permettre, pense-t-il, de faire surgir un homme nouveau, un homme de vitesse. Lui-même, au volant de son Isotta Fraschini décapotable, au moteur de 100 chevaux, le 15 octobre 1908, il frôle la mort sur une route de la banlieue de Milan. Il en accusera quelques cyclistes trop lents à son goût. Et affirmera avoir transcendé cet accident en expérience mystique. Elle lui aurait permis, je cite, « de savourer à pleine bouche de la boue fortifiante pleine de métal ». Ainsi naît le futurisme, comme une exaltation spiritualiste de la modernité technique à l'heure de la fée électrique. Cet Italien, né à Alexandrie en 1876, francophone et francophile, fait exploser ses 10 idées d'abord en Italie, puis en France dans le Figaro, le 20 février 1909. Il le fait comme on bombarde un cortège de notables, avec violence et précision selon ses termes. Au moment où d'autres radicaux aspirent à des révolutions sociales et politiques, en art, Marinetti est le chantre d'une révolution radicale. Il appelle à brûler les bibliothèques, à inonder les musées, à cesser de se prosterner devant la Joconde ou la Victoire de Samothrace, une statue, affirme-t-il, moins belle qu'une automobile. Avec sa révolution permanente, il se donne pour objectif de réinventer par l'art la vie quotidienne dans tous les domaines, de la peinture à la poésie, de la typographie à la sexualité, en passant par la mode et la cuisine. Ses inspirations sont multiples, ses idées foisonnantes, non conformistes et parfois délirantes. Il peut tout à la fois glorifier le geste destructeur des anarchistes et être ainsi l'ami d'Errico Malatesta, une grande figure libertaire, puis fonder en 1919 un faisceau futuriste pour soutenir activement le fascisme naissant de Mussolini. Mais dans le même temps, proposer un compagnonnage au théoricien communiste, dirigeant du parti Antonio Gramsci, que combat le futur Duce. Il peut affirmer qu'il faut mépriser les femmes et combattre le féminisme tout en soutenant les suffragettes. Pour s'y retrouver, nous avons avec nous Anne Tomich. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature comparée à Sorbonne Université, spécialiste des avant-gardes, et parmi vos ouvrages, je citerai « La naissance des avant-gardes occidentales, 1909-1922 », paru chez Armand Collin en 2015. Et Pascal Horry, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une longue carrière d'historien, vous êtes un spécialiste de l'histoire culturelle, auteur de nombreux ouvrages. On peut retrouver une partie de ceci dans ce « Côté obscur du peuple », publié chez Bouquin en 2022. Vous êtes aussi académicien et votre discours de réception vient de paraître chez Gallimard. Anne Tomich, une première question. Qui est ce Marinetti? C'est déjà une personnalité dans les milieux artistiques.
Oui, alors, vous avez commencé en fait en présentant un petit peu Marinetti en disant c'est un personnage haut en couleur. Et je crois que c'est vraiment de ça. C'est un personnage vraiment haut en couleur. C'est un personnage, au fond, dont la personnalité, le charisme, le sens de ce qu'on appellerait aujourd'hui, alors le terme est totalement anachronique, hein, mais aujourd'hui on parlerait de son sens du leadership, ils étaient tels que sans lui, le futurisme italien n'aurait pas été ce qu'il a été, et je ne sais même pas s'il aurait été tout court. Alors, il est tel ce charisme et cette importance de Marinetti qu'on a souvent un peu trop tendance à assimiler, en fait, le futurisme italien à Marinetti, alors qu'il y a vraiment une trajectoire très singulière de Marinetti. Certainement après 1918. Vous avez rappelé aussi, alors en commençant, que Marinetti est né en Égypte, à Alexandrie, en 1876, et il est d'une famille italienne, mais il est éduqué dans un collège français de jésuites. Et il partira d'ailleurs, il quittera l'Égypte à l'âge de 17 ans pour aller à Paris dans le but de poursuivre ses études avant de rejoindre l'Italie. Donc, il est élevé en fait entre trois cultures et trois langues, égyptienne, française et italienne. Et très très tôt, il est attiré par la littérature. Sa mère est prof de lettres. Très tôt aussi, le français s'affirme pour lui comme langue littéraire, langue de la création. Littéraire et poétique, et c'est évidemment important parce que ce manifeste dont nous allons parler, le manifeste de fondation du futurisme, quand il est publié pour la première fois en février, le 20 février 1909, dans le Figaro, c'est d'abord en français. Et toute la carrière de Marinetti, en tout cas certainement tout le début de la carrière de Marinetti, croise le français, l'italien, pardon. Tantôt, il écrit les textes d'abord en français, puis ensuite, il les fait passer à l'italien. Tantôt, il les écrit d'abord en italien, et ensuite, il les traduit dans l'autre langue.
Il y avait déjà une première publication dans une revue qui s'appelait Poesia,
non.
C'est cela, non?
Non, il y a une publication dans la revue Poesia en italien,
oui.
Qui paraît en mars 1909, mais le texte est daté du 11 février 1909. Ça, c'est une pratique courante chez les avant-gardes d'antidater les textes quand ils veulent produire des effets en fait d'originalité. Donc quand ils publient en Italie, ils veulent donner l'impression qu'en fait c'est l'Italie qui est première, donc il antédate son texte. Mais la toute première publication, c'est dans le Figaro et c'est en français. Ce qu'il faut savoir aussi pour situer et contextualiser ce Marinetti, c'est que toute la période d'avant 1909, donc d'avant le futurisme, elle est marquée sur le plan des influences littéraires par le symbolisme.
C'est ce qui nourrit sa revue d'ailleurs, Poesia.
C'est ce qui nourrit sa revue Poesia, c'est ce qui nourrit en fait tous ses premiers recueils de poésie, 1902, La conquête des étoiles. D'ailleurs en fait, c'est par les symbolistes qu'il est d'abord remarqué. Hein, c'est par Gustave Kahn, c'est par Catulle Mendès, c'est eux qui le publient en premier, et tout le début de sa carrière est marqué par ce symbolisme. D'ailleurs, on y reviendra. Mais le manifeste de fondation du futurisme, on sent encore assez fortement hein, cette influence symboliste. On y reviendra probablement tout à l'heure. Sur le plan politique, vous l'avez
On l'appelait suggéré. Le Bakounine de l'art à un moment donné.
On l'appelait le Bakounine de l'art à un moment donné, ouais. Et toute sa première formation, en fait, toutes les influences politiques, idéologiques initiales sont marquées par l'anarcho-marxisme. Il est un grand lecteur de Georges Sorel, le théoricien de la violence révolutionnaire. Il est un grand lecteur aussi du philosophe marxiste Labriola.
Qui était un de ses amis, Anne Tomich.
En tout cas, il était très proche et très ami d'Ottavio Dinal et de la forme d'anarcho-syndicalisme qu'il incarnait avec l'Union syndicale italienne. Donc voilà, peut-être que je vais m'arrêter là pour le contexte initial et la formation et les influences qui ont marqué Marinetti avant d'arriver au manifeste.
Venons-en au manifeste, effectivement, Pascal Horry. Je vais citer quelques phrases, parce que c'est quand même un texte qui a un peu disparu des mémoires, et dont le ton... Et quand on écoute des discours de Marinetti, le ton est important parce qu'il était dans une sorte de mise en scène emphatique de son propre discours et ça en donnera également la teneur. Alors je cite quelques-unes de ses formules. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde. Nous voulons libérer l'Italie de sa gangrène de professeurs, d'archéologues et d'antiquaires. Admirer un vieux tableau, c'est verser notre sensibilité dans une urne funéraire, etc., etc. Pascal Horry, au fond, comment qualifier ce manifeste? C'est un texte, la vocation est artistique, politique, générationnelle. Comment le définiriez-vous?
D'abord par le ton, quand même. On a cité plusieurs manifestes, on en citera d'autres. celui-là est d'un ton particulièrement virulent, soutenu, quoi, hein, clairement. Il y a des textes qui enveloppent un petit peu plus les choses. Et c'est peut-être ça qui a frappé les contemporains, parce que, en effet, c'est un manifeste, c'est quelque chose de relativement personnel, mais en même temps, on y reviendra, c'est que c'est un ton et un contenu, mais d'abord sans doute le ton, qui a marqué, sans doute influencé pas mal de contemporains. Que ce soit aujourd'hui largement disparu, pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra, et qui appartiennent entre autres à l'histoire politique, mais pas que, il n'en reste que, quand on considère l'audience de ces textes, alors qu'ils sont effectivement publiés à plusieurs reprises en français, en italien, voire en d'autres langues, jusqu'au-delà des frontières de la France et de l'Italie, jusqu'en Russie, etc., on se dit que, pour les contemporains, c'était pas un texte anodin. Pour le reste, bon, on l'a souligné, il est né à Alexandrie, dans un milieu sans doute plus français à la limite qu'italien, en tous les cas, c'est cette logique des expatriés paradoxaux, puisque c'est un expatrié d'Italie, mais en fait, on a vu comment dans la culture française. Et je pense que l'idée de cristalliser son combat dans un manifeste, c'est très lié à sa propre francophonie, francophilie, puisqu'il y a une tradition française des manifestes. La France n'est pas la seule au monde quand même, bien sûr, mais depuis plus d'un demi-siècle, elle produit du manifeste. Elle produit sans doute bien d'autres choses, mais c'est une des spécialités françaises. Et même le Figaro a déjà accueilli des manifestes, comme je parle sous le contrôle de Anne Tomich, mais le manifeste des cinq, donc, qui est le deuxième ou troisième manifeste naturaliste, est paru déjà dans le Figaro, je crois, en 1889. Donc, on sent bien que ce jeune franco-italien est quand même, j'allais presque dire, intoxiqué par des modèles qu'il exalte, on peut le comprendre. Ça me paraît important. Et par ailleurs, on l'a déjà évoqué, on va le prouver dans un instant certainement avec quelques exemples, ce premier texte va en produire d'autres, puisqu'il va y avoir un manifeste futuriste de la cuisine, de la luxure, de tout. Et c'est pas le cas de tous les manifestes qui ont précédé. Hein.
Ça sera la déclinaison. Mais alors, sur le texte lui-même, et au fond, quelle en est la teneur? Cet éloge de la vitesse, cet éloge de la guerre, cette volonté de régénération, au fond.
La fascination de la guerre sera pour lui quelque chose de très important, Pascal Aurélien.
Oui, c'est ce qui, effectivement, peut le distinguer d'autres futuristes. L'accent mis sur la guerre est d'emblée très net chez lui, et beaucoup moins net chez d'autres, voire inexistant. Enfin, pour simplifier, parce que c'est un mot, justement, attrape-tout, mais c'est justement son côté attrape-tout qui est intéressant, qui a fait peut-être son succès, c'est une exaltation de la modernité. C'est une contre-culture. Donc, il retourne comme un sablier, effectivement, l'Italie des antiquaires, des professeurs, etc., il la retourne.
Et des musées.
Voilà. Et évidemment, à la limite, détruisons les musées. C'est ça qui me paraît être le moteur profond de la position de Marinetti, et ça permet des ralliements variés. On peut imaginer qu'on se rallie à ça avec des origines, des généalogies idéologiques assez différentes.
Oui, Anne Tomich, dans ce groupe de futuristes, il va y avoir des parcours très différents, et puis des peintres, des poètes, du roman.
Alors, il va y avoir toutes les disciplines, des peintres, des musiciens, des sculpteurs, et il va y avoir, comme vient de le dire Pascal Horry, des artistes dont les trajectoires même idéologiques et politiques vont être très différentes et qui vont être effectivement, qui vont converger derrière cette valorisation de la modernité. Vous avez dit, cette valorisation de la modernité, en fait, elle est la conséquence du rejet, mais extrêmement violent, par le futurisme du passé, ce qu'ils appellent le passéisme, et ça, de tout ce qui se rattache donc à la tradition. Et ça va les réunir tous, tout ce qui se rattache à la tradition en matière d'art, en matière de culture, tout ce qui se rattache aussi au passé en matière d'institutions, et jusqu'aux institutions politiques.
Et il fait ça en Italie, c'est-à-dire dans un pays qui est quand même très marqué par justement le passé, hein, Tommy.
Et il fait ça en Italie, et alors en Italie, alors il va faire des proclamations à Venise contre la Venise passéiste, c'est le titre d'un manifeste, manifeste contre Rome passéiste, etc., etc., etc. Bien sûr, oui, en Italie, mais pas que, comme ça vient d'être dit aussi, absolument partout en Europe, et puis même après, au-delà de l'Europe.
Juste pour préciser d'un mot, quand vous dites l'éloge l'un et l'autre, l'éloge de la modernité, c'est la modernité technique, technologique, industrielle.
C'est les deux. C'est la modernité en ce début du XXe siècle. Mmh. Et au début du XXe siècle, on est à l'ère du grand développement de l'industrialisation.
La voiture, l'avion.
Les usines, les trains. Usines. Voilà. Et donc, dans le manifeste, il dit, nous voulons chanter les gares, les locomotives, les usines, etc. Et c'est aussi la modernité technologique. Donc, c'est le développement des techniques, et en particulier des techniques de communication. Et la vitesse de la technique de communication, d'où cette valorisation de la vitesse, le dynamisme, le mouvement, la vitesse.
Pascal Horry, Anne Thomy, je dis la communication, c'est un génie de la com.
De la propagande, pour être
de la propagande.
Et d'ailleurs, on y reviendra, je pense que ce futurisme un peu oublié aujourd'hui est quand même très fondateur. Sauf qu'on n'ose pas, pour diverses raisons, toujours faire remonter jusqu'à ce moment l'origine, mais très fondateur d'autres tropismes qui sont politiques ou culturels, d'ailleurs. Lui, je parle non pas de Marinetti, à la limite, on pourra revenir sur la spécificité de Marinetti que Anne Thomy a souligné à juste titre, mais ce mouvement, lui, c'est ce mouvement, est quand même gros d'évolutions qui vont traverser le XXe siècle.
Et même après, des écoles, enfin, ou des écoles ou des courants qui vont naître dans d'autres pays. On pense par exemple en particulier à la Russie, où il va y avoir un futurisme russe très important au
tout
moment, d'une certaine manière, où Lénine dira que le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité. On voit bien cette technique.
Comme Mayakovsky a eu cette période futuriste, évidemment. Mais je dirais que la provocation, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme contre-culture, ça me paraît adapté à cette démarche-là, elle est quand même fondamentale à la plupart des manifestes, qui sont l'affirmation d'une nouvelle génération qui secoue un peu le cocotier. Sauf que là, c'est en quelque sorte multiplié par 10.
Hein.
Et pardonnez-moi, dire tout ce qu'il dit contre le passé, c'est en même temps attaquer à la racine, alors là, des constructions culturelles qui remontent beaucoup plus haut qu'une génération.
Parce que à la provocation, il ajoute la performance, une forme de performance, comme on dirait aujourd'hui. Il ajoute la publicité, il ajoute des tournées internationales absolument spectaculaires.
Anne Thomy, c'est quand même on dirait aujourd'hui qu'il fait des happenings quand il déclame.
Mais moi, je dirais que, en fait, sa stratégie de com, c'est pas comme ça, mais sa stratégie de communication, elle repose sur deux éléments. D'une part, il faut occuper le terrain. Il faut être partout. Il faut vraiment. Et donc, du coup, la multiplication des manifestes dans tous les domaines, partout, tout le temps, ça relève de cet aspect-là de la stratégie. J'occupe le terrain. On me voit partout. Et puis, je fais parler de moi. Enfin, il fait parler de lui. Donc, je fais du happening. Je provoque le scandale. Et le ton, la violence, l'agressivité, tout ça relève de cette stratégie de communication qui consiste à faire parler du futurisme, à faire parler de...
Parmi
de
le lui. Scandale, parmi les manifestes, il y a celui de la cuisine, où on commence en réalité par le dessert pour remonter jusqu'à l'entrée, et qui va même perturber Gramsci, qui fera une note sur le manifeste de la cuisine de Marinetti, en disant quand même que tout ça est un peu bizarre. Il dira qu'il est à la fois confus et original. Pascal Horry.
C'est là qu'il faut rendre hommage, parce que le pauvre, pas de jugement de valeur, disons, ça a été une étoile filante, à Jules Mincave, qui était un vrai cuisinier et qui s'est rallié au futurisme à cette occasion et qui a contribué à rédiger son propre manifeste. La force.
Qui était français, italien.
Français. Oui, parce que.
J'avoue mon ignorance.
C'est tout à fait légitime d'ignorer Jules Mincave, qui commence à ressurgir dans l'histoire de la gastronomie. On dit, on a quand même oublié. Et il s'est complètement réclamé du futurisme. Il est mort en 1920. Et Marinetti, dans les années 30, a récupéré la notion de cuisine futuriste.
Oui. Et dans cette provocation sur la cuisine, par exemple, il dit, il faut abolir les pâtes, mais passéistes. L'abolition de la fourchette et du couteau pour le plaisir tactile. Il faut toucher les aliments avec la main. C'est quand même. Il y a un côté invention un peu iconoclaste.
Tous ces manifestes, ils sont faits sur le même modèle. Alors, le manifeste de la cuisine, il est plus tardif. Il date de 1931. Mais tous ces manifestes, sur tous ces sujets différents, différents. Ils sont faits un peu sur le même modèle. On commence par faire une sorte d'état de l'art qu'on qualifie de passéiste. Donc, voilà, tout ce qu'on condamne et qui est taxé de passéiste, pour ensuite apporter... alors, c'est même... Très honnêtement, le manifeste de la... Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la gastronomie. Donc, le manifeste de la cuisine, je n'en connais... À part savoir qu'il est contre les pâtes, j'en sais pas grand-chose de plus. Mais donc, on commence par taxer de passéiste tout ce qu'on veut rejeter avant d'apporter des innovations les plus farfelues qui puissent être sur tel ou tel domaine.
Mais... Il n'y a pas simplement de l'innovation, il y a quand même une certaine pensée, parce que justement, je reprends ce que disait Gramsci à partir de ce manifeste, il dit, ben voilà, il dit, on pense, on rêve et on agit en fonction de ce que l'on boit, de ce que l'on mange, et c'est ça qui est quand même intéressant. C'est-à-dire, c'est pas complètement du happening, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pensée aussi, Pascal Horry.
Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse continuer l'émission en concluant que bon, ça a été un moment débouriffé. Parce que le rapport avec le fascisme, moi, je le prends très au sérieux.
Mais moi aussi.
Très, très au sérieux. Hein. C'est-à-dire que les conséquences politiques sont évidentes. C'est-à-dire que c'est pas rétroactivement qu'on dit, ben oui, il a rencontré sur son chemin Mussolini, mais c'est assez. Il y a une profonde logique.
Et ça commence dès le début, en fait.
On va y venir. On va y venir, bien sûr.
Mais on sent bien qu'en parlant de happening, disons de performance, là, on touche à quelque chose qui dépasse complètement le futurisme, parce que, bien entendu, des performances, on en a encore actuellement. Et là, il me semble... On pourrait chercher un peu plus haut, mais il me semble quand même que la notion de performance, qui ne s'appelle pas faire performance évidemment à l'époque, est déjà complètement là, donc serata. Tout le XXe siècle. Hein.
Mmh. Elle s'appelle, à l'époque, ça s'appelle serata, oui, c'est les soirées.
J'ai une question qui, avant de revenir sur cette espèce de chamboule tout azimut du futurisme et des manifestes futuristes, j'ai une question, on a dit en introduction que c'était il avait une culture et une trajectoire cosmopolite, Marinetti, et en même temps il y a une forme de nationalisme dans ce mouvement, et ça, on y viendra évidemment quand on abordera la question politique, mais dès le départ il y a quand même quelque chose de très italien dans
Ben oui, il faut pas oublier quand même que l'unification italienne, elle est relativement récente. Hein, en tout cas, elle est postérieure à celle des autres pays d'Europe. Que Marinetti, il a été élevé dans les idéaux que lui a transmis sa mère du Risorgimento et donc de les idéaux de l'unification italienne. Qu'en fait, il se réfère souvent à Garibaldi, en tout cas jusqu'en 1915, et que ces deux premières décennies en fait du XXe siècle en Italie, elles sont marquées par un nationalisme partagé par tous les bords politiques. Du coup, c'est pour ça que les discours très nationalistes en faveur de l'expansion coloniale, hein, il s'agit aussi d'imposer la nation italienne et le nationalisme passe par faire acquérir à l'Italie le statut d'empire colonial comme celui de la France par exemple. Ces discours-là, ils choquent pas
à l'époque.
Il va quand même se radicaliser à travers la guerre.
Oui, parce que là, je voudrais revenir sur un autre point. Effectivement, il met en avant la guerre. Il se distingue de certains futuristes qui descendent du train à cette occasion-là. Sauf que, d'une certaine façon, ce qui va se passer à partir de 1914, c'est pas si loin que ça, c'est 5 ans après. Je ne dis pas le confirme, mais donne une énergie incroyable au discours futuriste, parce que la guerre est là. Et, pour simplifier, un jour, j'avais posé la question un peu en public, d'où vient le fascisme? Est-ce qu'il vient de la gauche ou de la droite? Sous-entendu, il est un peu des deux, bien sûr. Mais la réponse principale, c'est qu'il vient de la guerre. Donc, la guerre, qui est effectivement le résultat de l'exacerbation des patriotismes, d'ailleurs, et des nationalismes, avant 1914, parce que tous les pays sont à cette zone-là, la Russie, l'Autriche-Hongrie, ça produit la guerre. Et pour un point de vue, alors, je dirais marinettien plus que futuriste, c'est incroyablement dynamisant.
Je reviens, avant d'arriver à la guerre, ce retour en arrière, mais sur le moment de publication, 1909, on est à ce moment-là dans une sorte d'explosion d'avant-garde. Les Fauves, 1905, les Demoiselles d'Avignon, Picasso, 1907, 1911, Kandinsky, le spirituel dans l'art, puis le suprématisme russe. Quelle est, au fond, la spécificité de... Alors, première... Pardon de cette question à tiroir, mais on a dit en introduction que l'inspiration initiale était plutôt littéraire et poétique. Mais assez vite, Marinetti constitue un groupe de peintres futuristes. Comment il se situe dans cette espèce d'extraordinaire effervescence des années 1905-1914?
Anne Toumiche.
Oui, ce qui marque la spécificité en fait de Marinetti et du mouvement futuriste, c'est précisément que autour de Marinetti, ce chef charismatique, à partir et autour du manifeste, il fonde un mouvement. Parce que il y a pas de manifeste fauve, il y a pas de manifeste. Ah, rétrospectivement,
on va en parler. D'Avignon, c'est un manifeste.
Non, non, ça n'a jamais été appelé manifeste.
Certes.
Il l'a pas appelé. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est en ça aussi que ce texte-là est extrêmement important. Il va en fait être fondateur de l'historiographie critique du manifeste. Mm-hmm. C'est à partir quand se développe en fait la réflexion, les analyses critiques, l'historiographie des manifestes dans la deuxième moitié du XXe siècle, hein, même on pourrait dire à partir des années 1980, qu'on pense la forme et le genre manifeste et manifeste artistique.
La référence,
c'est Marinetti qui l'a fondée, et c'est à partir de la référence marinettienne que un certain nombre de textes sont qualifiés rétrospectivement de manifestes. Mais Picasso, il a jamais appelé Les Demoiselles d'Avignon manifeste.
Certes. Est-ce qu'on peut dire, Pascal Horry, que c'est une sorte, au fond, d'avant-garde, des avant-gardes? Non.
Ce serait assez bien vu, parce que je voulais aller dans votre sens, Gérard Courtois. On pourrait dire qu'en photographiant la situation culturelle en 1913, parce que pour moi c'est un manifeste culturel, il n'est pas qu'artistique, il n'est pas que politique, donc culturel, ça le définit peut-être moins mal que d'autres. En 1913, vous photographiez la situation culturelle, donc on ne se limite même pas à l'art, justement, ça c'est important, vous avez énuméré, on pourrait ajouter Freud et Einstein. Donc, eh bien, la modernité du XXe siècle est déjà là. Alors, on pourrait se dire, mais au fond, le futurisme, qu'est-ce qu'il ajoute? Ben, à mon avis, il ajoute la volonté de théorisation et d'englobement, parce qu'il prétend, évidemment, résumer tout ça, sans doute prendre le pouvoir symbolique. À la place de ces tentatives qui s'appellent ici les fauves ou les...
Pas simplement symbolique, puisqu'en réalité, à un moment donné...
Oui, mais par symbolique, je n'affaiblis pas. Je dis que je suis le théoricien, moi, oui. Marinetti, j'englobe tout, et qui même me suivent.
Et tout, c'est-à-dire la société et la politique.
Et lui, il théorise. Et c'est quand même la tradition des manifestes de... Les autres, souvent, ils ne théorisent pas. Picasso, il n'écrit pas un manifeste.
Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'au fond, ce qui est important, c'est la théorisation plus que la production artistique chez les futuristes?
Je serais d'accord avec la première partie de la phrase. Ce qui est important, c'est la théorisation. C'est peut-être sévère de dire qu'il n'y a pas de production.
Alors, je précise, quand on pense à la création... Par exemple, artistique, pictural de cette période, on pense à Matisse, on pense à Picasso, on pense à Kandinsky, etc.
Mais regardez la peinture italienne,
oui,
c'est quand
Boccioni,
même...
Pensez à Boccioni,
oui,
pensez à Carrà, à Severini.
Mais ils ont quand même...
En France, ils sont moins...
Anne Toumiche.
Vous
n'avez pas l'air très d'accord.
J'ai voulu finir votre phrase. J'ai cru que vous alliez dire ils sont moins, comment dire, célèbres, connus.
Ils ont moins marqué, en tout cas, dans l'histoire de l'art de cette période, que ce que j'ai cité.
Vu de France, mais je vous assure que, vu d'Italie, les Boccioni, les Severini, les Balla, etc., ont marqué l'histoire de l'art.
Et maintenant, on les revisite positivement.
Absolument.
Je suis victime d'une sorte de déformation.
Mais là où
nationalisme français, ouais. Gérard Courtois est connu pour ça.
Bon, c'est... Et là, non,
là où je vous suivrais tout à fait, c'est qu'en fait, la novation littéraire des futuristes, en fait, elle est postérieure à 1909, elle est postérieure à ce premier manifeste, et que à l'époque, les futuristes russes, par exemple, les vorticistes anglais, sont plus novateurs d'un point de vue, comment dire, littéraire.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Alors, parmi les manifestes et parmi les choses un peu étonnantes, j'avais dit en introduction qu'il avait des aspects contradictoires, il est viriliste, et en même temps, il va organiser une sorte de dialogue autour de la féminité avec Valentine de Saint-Point, Anne Toumiche.
Oui, alors ça, c'est sûr que Marinetti ne s'embarrasse pas de contradictions. Hein. Donc, effectivement, dans ses rapports au féminisme et aux questions plus largement de...
Le féminisme, dans le manifeste, dit qu'il faut le combattre, hein, comme je l'ai dit en introduction.
Il dit blanc et son contraire. Hein, vous avez cité un manifeste, vous avez cité le manifeste
de 1909,
qui dit nous combattrons le moralisme et le féminisme. Il dit aussi, dans un texte alors qui n'est pas un manifeste, mais qui reprend sous forme d'essai tous les points du manifeste en 1911, dans un ouvrage, dans un recueil qui s'appelle Le Futurisme, et donc où il développe chacun des points du manifeste, mais sous une forme qui n'est pas la forme virulente du manifeste, qui est la forme essayistique. Et là, il y a un chapitre qui s'appelle Le mépris de la femme, donc il reprend le point où
il tapait
sur le mépris de la femme en disant qu'il fallait aussi, il fallait à la fois glorifier la guerre et le mépris de la femme en 1909. Il y revient pour dire que, en fait, les suffragettes sont les meilleures collaboratrices des futuristes. Et si on regarde dans les faits, ben effectivement, il y a eu des suffragettes qui étaient présentes quand il est venu à Londres faire le premier discours futuriste à Londres. C'était en 1910. Il a participé à des marches avec les suffragettes en 1912. Bon, en même temps, il faut aussi relativiser. Hein. Enfin, il faut même tempérer. Il faut dire pourquoi ce sont ces collaboratrices. Les suffragettes.
Et d'autant plus relativisé qu'en réalité, il dit le vote des femmes fait ce qui va permettre au final d'abattre le parlementarisme.
Pascal Aurier. Parce qu'elles sont tellement bêtes.
Oui, on peut dire ça. Bah, et puis il y a Valentine de Saint-Point, et ne serait-ce qu'elle, c'est intéressant, parce que elle est elle-même le lieu de contradiction jusqu'à la fin de sa vie, qui fut très aventureuse. Mais elle publie son propre manifeste, effectivement, qui considère qu'on peut concilier la notion de féminisme, en tous les cas, la femme n'est pas étrangère au futurisme et le futurisme. Et l'année suivante, en 1913, c'est le manifeste futuriste de la Luxure. Oui. Donc on voit bien quel peut être le choix. Ce qui me paraît intéressant, ce sont certes les contradictions, mais d'une certaine façon, ça permet d'essaimer le message et de donner à Marinetti et aux principaux leaders, mais c'est quand même lui le leader des futuristes, une position centrale. Et le fait que Valentine de Saint-Point, au fond, ensuite va hésiter, va sinuer, c'est quand même une victoire pour Marinetti.
Bien sûr, et elle parle même d'égalité des sexes dans son manifeste, et puis quelque chose qui pourrait même apparaître comme très moderne. Elle dit « Il est absurde de diviser l'humanité en femmes et hommes ». Elle n'est composée que de féminité et de masculinité. C'est assez étonnant.
Oui, il peut y avoir une conception viriliste du féminisme. Donc Valentine de Saint-Point serait d'accord avec ça. Mais
juste pour fixer les choses, l'écho de ce manifeste de Valentine de Saint-Point sur la femme futuriste, c'est des tout petits cercles ou ça a quand même un écho un peu plus large.
Il y a quand même un effet de scandale.
Anne Tomich.
Alors, le manifeste de Valentine de Saint-Point, il est d'abord lu dans une lecture publique et ça crée un grand scandale, voilà, sur le mode des soirées.
À Paris.
Alors c'est à Bruxelles d'abord et à Paris, et c'est à la salle Gaveau à Paris que a lieu le scandale. Donc il y a un scandale. Après, le retentissement du manifeste n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait Valentine de Saint-Point. Et c'est précisément parce qu'il n'est pas à la hauteur du retentissement qu'elle espérait qu'elle écrit le manifeste de la Luxure. Parce que là où le manifeste de la femme futuriste se veut une réponse à Marinetti, le manifeste de la Luxure, lui, il se veut, et c'est la phrase, enfin c'est l'exergue, hein, il se veut une réponse aux journalistes qui, alors je paraphrase, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais aux journalistes qui coupent les phrases et qui transforment les idées. En gros, aux journalistes qui n'ont rien compris, qui ont déformé ce que je disais et qui n'ont pas donné à mon manifeste de la femme futuriste l'écho qu'il aurait mérité.
Et alors, dans ce manifeste, on retrouve la question de la guerre, puisqu'elle dit, dans le manifeste de la Luxure, « L'art et la guerre sont les grandes manifestations de la sensualité, la Luxure est leur fleur », Pascal Horry.
Oui, l'échec, c'est pas un jugement de valeur chez moi, c'est le constat, l'échec de Valentine de Saint-Point, on en a la preuve anecdotique pour les auditeurs qui suivaient, il y a quelques années, le Canard enchaîné. vous aviez une signature Valentine de Coincoin, qui était le dernier écho du discrédit de la pauvre Valentine. Qu'elle soit devenue un personnage du Canard Enchaîné sous le nom de Valentine de Coincoin, plus personne ne pouvait comprendre pourquoi.
Je cite la phrase d'exergue du manifeste de la Luxure, « Réponse aux journalistes improbes qui mutilent les phrases pour ridiculiser l'idée. »
Voilà. Et donc elle s'est sentie ridiculisée, et donc elle s'est sentie ridiculisée dans la réception du manifeste de la femme futuriste.
Elle en a rajouté une,
voilà,
une
grosse
rajouté
une couche. Exactement. Mais si je peux me permettre de rajouter, d'aller dans votre sens,
Anthony
Pascal
Horry,
et de vous dites donc la preuve du peu d'écho de Valentine de Saint-Point, c'est le Canard Enchaîné. Je dirais que, alors même que vous l'avez cité, son manifeste revendique l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Et alors qu'il y a certains aspects qui sont effectivement des aspects, comment dire, entre guillemets féministes, elle fait pas du tout partie des canons de réhabilitation féministe, si je peux dire. Elle est pas du tout une figure qui est mise au panthéon du féminisme par les féministes à partir des années 1980. Hein.
Donc, alors qu'elle est très intéressante.
Alors qu'elle est très très intéressante.
Elle continue à être victime
bien sûr,
de ça.
Bien sûr.
Et alors, dans la postérité ou dans le cheminement, il va y avoir d'abord les dadaïstes. Et Marinetti dira, eh bien, vous êtes mes enfants, et c'est pour ça que vous me reniez, mais parce que l'habitude des enfants, c'est de renier leurs parents. Et puis après, sur la plus longue durée, il y a quand même l'influence sur le surréalisme, puisque Breton fera même une pétition au moment où Marinetti sera en prison quelques mois, et cette pétition sortira au moment, en fait, où il est libéré, Pascal Horry.
Si on considère que l'un des moteurs essentiels de la démarche futuriste, pas simplement celle de Marinetti, c'est la provocation, c'est le non-conformisme. C'est aussi, en méthode, la performance. Bah, on retrouve ça chez les dadas et chez les surréalistes. Là, alors, y compris quand les intéressés repousseraient ça avec horreur. Mais bon, nous, on n'est pas là pour adhérer forcément à leur point de vue. Je crois qu'avec un peu de recul d'histoire culturelle, il y a un lien. Puis j'ajoute que, au-delà du futurisme plus ou moins organisé, de moins en moins, d'une certaine façon, de plus en plus dilué, en particulier à cause de ses choix politiques après la Première Guerre mondiale, il y a une influence, me semble-t-il, je parle sous le contrôle d'Anne Tomich, une influence du mode de raisonnement futuriste. Quand même, Apollinaire n'est pas complètement étranger à ce qui se passe là et semble un moment assez fasciné.
Il va même écrire l'anti-tradition futuriste,
oui,
Apollinaire.
Voilà. Et puis, je voudrais citer le nom de Canudo. Ricciotto Canudo.
Septième art.
L'homme qui a inventé la formule septième art, il l'avait testé avant sixième art d'ailleurs, mais ne se réduit pas à ça. C'est vraiment un penseur de la culture très intéressant. On ne peut pas dire qu'il est vraiment futuriste, mais il n'est pas loin du futurisme.
Il en est très très proche du futurisme, puisqu'en fait c'est par lui que Valentine de Saint-Point a rencontré Marinetti.
Oui, et puis justement le 7e art pour lui c'est justement l'alliance de tout, de la technique, de l'image, du son, du bruit, puisqu'il y avait le manifeste du bruit et il invente cette formule 7e art, Anne Tomich.
Oui, mais ça c'est très tôt dans le futurisme.
C'est 1923-24, c'est ça que...
C'est 1911 pour 6e art. Parce qu'il utilise d'abord 6e art, et ensuite 7e art après la Première Guerre mondiale, et j'allais dire le pauvre disparaît prématurément. Il allait devenir sans doute un des grands penseurs du cinéma.
Oui, c'est ça, il est en fait un des grands penseurs du cinéma, mais ce qui apparaît très très tôt, c'est cette volonté de penser en fait tous les arts ensemble. Mmh. Cette volonté de penser en fait un art total. Un art total qui mêle la musique, la peinture, les bruits, tout. Tout.
Oui, bien sûr. Et qu'on retrouvera justement dans le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant qui a été en grande partie écrit par Trotsky avec Breton, où justement il y a cette idée que l'art ne peut être séparé de la vie comme le voudrait le système bourgeois de l'art, disait
d'ailleurs
Trotsky.
Le passage du manifeste surréaliste numéro 1 au surréalisme au service de la révolution, oui, avait déjà montré qu'il pouvait y avoir conjonction, et pas simplement dans le cas du futurisme. L'idée qu'il y a un débouché politique d'un manifeste culturel, Ce n'est pas propre et au futurisme.
Je le dis sciemment parce qu'on l'oublie, enfin on ne le sait pas forcément, mais Trotsky avait écrit un très long article sur le futurisme. Il avait été très intéressé par cette question. Il lisait le français et il va avoir une correspondance avec Gramsci justement sur Marinetti et le futurisme. Et puis après, cette rédaction avec André Breton.
Pascal Horry évoquait à l'instant le débouché politique d'un manifeste culturel. Alors, dans le cas du futurisme, le débouché politique, on le connaît, et il va venir très tôt dans l'histoire du fascisme, dès le départ, c'est effectivement le fascisme italien. Comment les choses se nouent juste après la guerre ?
Paradoxalement, on pourrait dire que c'est à l'origine du fascisme qui est proportionnellement le plus de futuristes. Parce que on a compté, hein, les historiens du fascisme ont compté presque un par un les fondateurs. C'est très intéressant, en 1920, vous avez des syndicalistes révolutionnaires, qu'on a déjà cité, c'est capital, donc effectivement un choix...
Qui constitue même le plus gros des troupes.
C'est et certains sont par ailleurs futuristes, et puis d'autre part vous avez les futuristes. Quand vous ajoutez ces deux groupes-là, vous avez la majorité des premiers fascistes. On peut dire que, justement, l'un des problèmes qui se poseront, entre autres, à Marinetti, c'est qu'on peut penser que le fascisme va devenir plus conservateur avec le temps. Mais ce qui fait sa force initiale, c'est qu'il est absolument révolutionnaire.
C'est-à-dire, en 1918, si je me souviens bien, enfin, si j'ai bien lu plus exactement, il y a un manifeste, encore un, du parti, pour la fondation d'un parti politique futuriste.
Il fonde le parti politique futuriste en 1918, Marinetti. Et puis, il fonde un journal, Roma Futurista, qui va être l'organe de ce parti politique. Et parallèlement à ce journal Roma Futurista, il crée, en 1918, donc avant 1919 et Mussolini, il crée des faisceaux politiques futuristes.
C'est en, à l'automne 1918.
Et en 19...
Avant la fin de la guerre.
Et donc, absolument. Et ces faisceaux politiques futuristes vont rallier les faisceaux de combat de Mussolini quand
En 1919, quand il crée ce mouvement.
Et c'est ça qui fait les bataillons de futuristes dans le fascisme dont parle Pascal Horry.
Et évidemment, l'échec politique de Marinetti, pas du futurisme, mais de Marinetti, c'est qu'au fond, il est dépassé par les événements. Parce qu'il y a un jeu subtil, pourquoi ne pas se rapprocher de D'Annunzio, etc. Et celui qui a l'intelligence, comme Lénine à même époque, politique, s'appelle Mussolini. Donc,
voilà. Et du reste, lui-même va être confronté au caractère un peu, je dirais, réactionnaire ou passéiste que va développer Mussolini, au point d'être en partie marginalisé. Et puis, Hitler dira que c'est un art dégénéré au moment où Mussolini se rapproche d'Hitler.
Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux années 40, le fascisme italien sera plus ouvert à la modernité, à cette avant-garde qui est déjà un peu datée, que, bien sûr, le nazisme, qui n'aura jamais d'ambiguïté de ce côté-là.
Un mot, Pascal Horry, sur D'Annunzio, que vous évoquez, parce que c'était le grand, la figure emblématique de l'Italie culturelle de cette époque. Au fond, pourquoi est-ce que Marinetti et les futuristes ne se mettent pas, au fond, sous son aile ou sous son égide?
Il y a peut-être quand même un combat d'ego géo. C'est-à-dire que Marinetti n'a pas non plus envie d'être complètement dominé par D'Annunzio.
Comme Mussolini, d'ailleurs.
Voilà. Mais D'Annunzio, c'est fascinant parce qu'on a l'impression que tous ces héros culturels finissent par, entre guillemets, faire de la politique. Ouais. Il y a quand même un moment où l'avenir politique de l'Italie, c'était D'Annunzio.
Au moment de Fiume, au moment immédiat après-guerre.
Et ça fascinait l'extrême-gauche. Hein. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fascisme sans une part de convergence des extrêmes.
À Fiume, on va retrouver beaucoup de militants d'extrême-gauche, d'anarchistes qui vont participer de l'aventure de
Mais le stratège, c'est Mussolini.
Fiume, il faut peut-être rappeler
oui,
ce côté...
en deux mots quand même.
Pascal Horry, en deux mots, c'est vous l'historien du fascisme.
C'est une ville qui fait partie des villes que l'Italie veut conserver, alors que la répartition diplomatique issue de la Première Guerre mondiale retire Fiume à l'Italie. Et du coup, D'Annunzio va faire de Fiume un pôle de résistance, alors effectivement nationaliste, et en même temps révolutionnaire, parce que quand vous regardez le programme de Fiume, c'est un programme qui va loin en direction de l'extrême-gauche.
Oui, il y a une sorte de soviète, il crée une sorte de soviète à Fiume avec ses militants d'extrême-gauche qui sont là.
Mais il se révèle, comme Marinetti, politiquement inférieur à Mussolini. Oui.
Et malhabile, en fait.
C'est ce que j'appelle inférieur.
Et en même temps, Marinetti et les futuristes qui sont proches de lui, d'autres vont s'en éloigner, peut-être on peut venir sur ce point, va rester fidèle au fascisme jusqu'au bout.
Oui, avec des moments...
Avec des moments où on a l'impression qu'il est...
Mais le régime aime bien le récupérer. Il meurt dans la peau d'un sénateur et membre de l'Académie d'Italie.
L'Académie d'Italie.
il est effectivement élu à l'Académie d'Italie, mais enfin, à partir du milieu des années 30, hein, il est quand même largement mis à l'écart. En fait, il a cru le régime fasciste allait lui accorder un rôle tout à fait privilégié dans sa politique culturelle. Et puis, il est passé de déception en déception. Il a quand même été globalement, à partir du début des années 30, vraiment progressivement mis à l'écart. Ouais. Et puis,
mais quand Mussolini même... a du reste des mots très durs sur lui. Il pense que c'est, en réalité,
c'est un peu un bouffon.
Comme il pense que D'Annunzio, comme dirait Pascal Horry, est quelqu'un qui n'est pas tout à fait pertinent sur le plan politique.
En même temps, qu'il sera capable de continuer à chanter les louanges de Mussolini jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. En 1942, il écrira « Je chante héros et machines de la guerre mussolinienne ».
Par ailleurs, la propagande fasciste est d'une modernité très remarquée à l'époque. Le photomontage, par exemple, c'est une création fasciste, pas communiste, hein, contrairement à ce qu'on dit souvent. Les communistes reprendront le photomontage. La mostra de la révolution fasciste en 1932 à Rome utilise des méthodes, entre autres, entre guillemets, futuristes. Et puis, celle qui est la première intellectuelle fasciste, qui est une femme, et qui est la maîtresse de Mussolini, Margherita Sarfatti, qui est une femme et qui est juive, va essayer de récupérer une partie du prestige du futurisme dans le mouvement Novecento.
Oui, mais alors il me semble quand même que le mouvement Novecento est donc en fait ce qui va être valorisé par le fascisme in fine.
C'est l'art officiel, c'est fasciste,
voilà, là, et cet art officiel-là, c'est pas de l'art d'avant-garde, c'est pas de l'art futuriste, c'est quand même un art où la question du passé, de la tradition, de la référence gréco-romaine occupe une place extrêmement importante, qui est précisément tout ce que rejetait le futurisme marinettien. Donc il y a une mise à l'écart non seulement de la personne de Marinetti et de son rôle dans le fascisme et la politique culturelle du fascisme, mais il y a aussi une mise à l'écart en fait du futurisme comme art.
Oui, bien sûr. En 1937, il y a du reste une attaque très violente dans la presse qui est directement pilotée par Mussolini, où on dit que le futurisme est un art dégénéré et judaïque.
Exactement.
Oui, c'est l'alignement de Mussolini sur Hitler, c'est-à-dire la perte d'identité du fascisme italien. Mais des gens comme Sironi ou Piacentini participent un peu du futurisme, en tous les cas, à l'origine, et d'autre part, l'utilisent dans le sens de la propagande. L'architecture fasciste est quand même extrêmement moderniste. Alors, est-ce qu'il faut la rattacher nécessairement au futurisme? Le futurisme de 1909 est déjà tellement loin. Mais ce n'est pas complètement contradictoire.
Alors, ce Marinetti, en réalité, il essaye quand même malgré tout de résister un peu de temps en temps, puisqu'il va continuer à dire jusqu'à la fin des années 30 que Picasso est un grand artiste. Il va défendre même le tableau Guernica. Et puis, il va mourir à la fin de la guerre. Et est-ce que c'est quand même son ralliement qui va faire que le futurisme va un peu passer, je dirais, sous le boisseau? Enfin, on ne va plus en parler pendant un moment, Antomich.
Oui, ça c'est évident que la compromission du futurisme avec le fascisme
a discrédité la référence.
Ça c'est absolument évident. Après, c'est ce qui me semble aussi évident, c'est que dans les révisions de cette lecture du futurisme, dans les entre guillemets réhabilitations, si on peut dire, hein, du futurisme, c'est la première période du futurisme. C'est la période du futurisme 1909-1918 qui est mise en avant, qui est mise sur laquelle on insiste, parce que de fait, c'est quand même la période de l'explosion
de l'inventivité
artistique, en tout cas. Et c'est quand même dans ce domaine-là, enfin. Là, je parle parce que c'est ce que je connais, en fait.
Allez-y, mais c'est pour ça que vous êtes là.
C'est dans ce domaine-là, c'est dans le domaine, en fait, artistique, que la marque de l'avant-garde futuriste peut nous apparaître aujourd'hui, rétrospectivement, comme la plus intéressante et la moins problématique.
C'est ce qui se passe dans les musées, dans les expositions.
Oui, exactement.
Notre génération, vous savez, commencé un petit peu avant, découvre le futurisme.
Et découvre ce futurisme-là, le futurisme de la première période, oui, essentiellement.
On va dire que c'est le futurisme.
Mais précisément, alors, après cette espèce d'éclipse liée au compagnonnage assumé avec le fascisme. Est-ce qu'il y a des résurgences, au fond? Je pense à l'art cinétique, par exemple, des années 50-60. Est-ce que l'art cinétique se revendiquait du futurisme, ou en tout cas, est-ce qu'on peut intellectuellement rapprocher les deux mouvements, par exemple?
Alors, je ne crois pas que l'art cinétique se revendiquait explicitement du futurisme.
Parce que justement, c'était très dévalorisant de se réclamer du futurisme à cause du fascisme.
Encore.
Ah oui, encore à cette époque-là. Ah oui.
Par contre, des avant-gardes de toute la poésie bruitiste et toutes les avant-gardes, par exemple, françaises, TXT, Christian Prigent, etc., se revendiquent. Alors, moins du futurisme italien, et là, c'est pour la raison que vient de préciser Pascal Horry, politique, mais du futurisme russe, mais autour de la même, pour la même raison, parce que futuriste russe comme futuriste italien, dans la perspective poétique de la poésie, ont, entre guillemets, libéré la langue. C'était ça leur grand mot d'ordre en littérature. Il fallait libérer les mots, les paroles en liberté.
C'est comme le vers libre.
C'est beaucoup plus que le vers libre. Le vers libre, c'est symboliste. Mais au-delà du vers libre, d'ailleurs, c'est ce que disait Marinetti, après le vers libre, il y a les mots en liberté. Et les mots en liberté, c'est les mots auxquels dont on libère les mots qu'on libère de la syntaxe, de la ponctuation, de toutes les formes d'articulation logique. Et donc c'est les successions de mots qui se suivent sans connexion logique. C'est ensuite le jeu de la disposition des mots et de la typographie sur la page qui en font de véritables tableaux. Ça, c'est les planches mots libristes, par exemple, de Marinetti. C'est la Zaoum, langue des futuristes russes, qui est une langue complètement hors toute langue articulée.
Inventée. Une novlangue.
pas la novlangue comme on l'entend.
C'est une langue neuve.
C'est une langue neuve, voilà, c'est ça. C'est une langue neuve.
Mais j'ai lu il y a quelque temps, je pense pas que ce soit facile à démontrer, que ceux qui critiques gastronomiques ont travaillé sur la cuisine moléculaire faisaient parfois référence à Minkhave, donc au futurisme.
Et on a évoqué la peinture, la littérature, enfin, les mots et la peinture, et dans le domaine musical, est-ce qu'on peut, parce qu'il y a eu ce manifeste du bruit, je sais plus si c'était son titre, mais
oui, Ousolo, oui. Mais l'art des bruits
qui revendiquait l'utilisation des bruits techniques, technologiques, industriels, etc. Est-ce que ça, c'est une sorte d'ancêtre de la musique concrète?
Pascal Horry.
Voilà, on peut, avec le recul et la hauteur, dire qu'il y a un lien. Nous sommes ici à Radio France, donc Pierre Schaeffer, etc. La notion de musique concrète qui ensuite est devenue musique électroacoustique, etc., emprunte quand même. Sauf que c'était tellement discrédité
que personne ne s'en revendiquait.
Voilà.
Et aujourd'hui, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a ce mouvement des Noirs américains, l'afrofuturisme. Est-ce que c'est une sorte de captation commode, ou est-ce que ça vous paraît vraiment pas du tout
Est-ce que c'est une sorte de provocation 1993, le mot apparaît, Antomiche?
Alors, je suis pas du tout spécialiste de l'afrofuturisme. C'est dans le domaine de la musique, non? Si je ne me
de la musique, mais aussi
de la peinture.
Du graphisme, Basquiat était assez proche de cette...
Tant qu'à être provocateur, il faut l'être jusqu'au bout, et même exhumer un mouvement qui était assez largement discrédité. Ça, c'est le summum de la provocation.
Oui, et puis peut-être que...
Mais il est un peu moins quand même aujourd'hui.
Le temps a passé.
Mais dans les années 90.
Le temps a passé. C'est vrai que le discrédit des années 50-60 peut s'être effacé un demi-siècle plus tard. Quand même.
En même temps, en 1960, il y a une biennale à Venise consacrée justement au futurisme. Une exposition historique du futurisme.
À mon sens, c'est le début de l'esquisse de commencement d'une réhabilitation.
Oui.
Mais il a fallu encore attendre quelques décennies. On y est maintenant. On y est.
On y est. Le futurisme est réhabilité à vos yeux aujourd'hui.
Mais culturellement parlant, on a cité des noms, Boccioni, etc. Donc de toute façon, vous avez des artistes qui résistent bien et qui sont même désormais mis en avant. Vous posez la question à Jean-Claire, il sera tout à fait d'accord. Et donc, je pense que on peut sauver le soldat futurisme à travers les individus. Le mouvement général, bon, d'une certaine façon, il rejoint le cimetière des avant-gardes.
Mais en même temps, vous le disiez, Pascal Horry, tout à l'heure, il a marqué un style et une manière de revendiquer des modernités successives.
Absolument, mais je maintiens que l'arrivée de la guerre, pas incantatoire, mais réelle en 14, a sans doute contribué à affaiblir, je ne dis pas pulvériser, mais quand même affaiblir le futurisme. Parce que c'était à un tel autre niveau que chanter la guerre en 1918... Bon, il y en avait qui l'avaient chez les anciens combattants, chez les fascistes. Enfin, une bonne partie de la réalité a, en quelque sorte, frappé avec un grand marteau les exhortations qui étaient quand même rhétoriques de Marinetti.
Ne serait-ce que parce que d'abord, un bon nombre de futuristes sont morts au combat. Ils sont morts. Donc,
mais ça, on pourrait en dire autant de toutes les avant-gardes de l'avant-première guerre mondiale. Ah, mais elles ont été, au fond, vitrifiées en quelque sorte par le.
Il faut insister sur le fait que la culture et la politique du XXe siècle sont incompréhensibles sans la 14-18.
Didier, quelques mots de conclusion de cet échange passionnant.
Échange passionnant, mais on a là encore un exemple d'un manifeste qui a une postérité de longue durée et dont les effets peuvent être souterrains. Mais sa force initiale fait qu'à un moment donné, ça rejaillit un peu comme de l'eau rejaillit de la roche, justement, parce que c'était suffisamment fort et percutant au départ. C'est ce que vient de souligner la discussion. Moi, je pense aussi, je sais pas si, à cette extrême gauche italienne qui, à un moment donné, va parler du futurisme, justement, pour combattre le côté réactionnaire ou conservateur du Parti communiste italien, des gens comme Nanni Balestrini, et puis d'autres qui vont se constituer en nouvelle avant-garde et qui vont essayer de dire, ben oui, mais il y avait quelque chose, alors c'est vrai, avant 1914, hein, avant, et qui était beaucoup plus innovant que la chape de plomb que l'alliance entre les communistes et les démocrates chrétiens veut mettre sur la jeunesse italienne. Mais c'est parce que il y a sans doute un effet de génération. Mais je pense à l'Italie parce que en Italie, il y a toujours un quotidien qui s'appelle Il Manifesto et qui est toujours un quotidien qui pendant longtemps a eu justement une typographie particulière et puis un format qui était celui d'une affiche. Et on voit là une sorte de permanente rétinienne. Alors peut-être pas tout le temps assumée, mais c'est parfois la force des idées que d'être là, présente. On les réutilise sans vouloir forcément dire de qui elles viennent pour pas avoir le sentiment ou être éviter une forme de stigmatisation. C'est ce que vous avez souligné. En tout cas, c'était un mouvement passionnant, ce futurisme, et malgré ses errements, et on peut dire parfois que les grands artistes ne sont pas à l'abri de grands errements. C'est quand même le cas de Marinetti.
C'est même assez fréquent, si je peux me permettre.
Merci Anne Tomich.
Merci à vous.
Pascal Horry.
Merci.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était les manifestes qui ont changé le monde. Préparation, Céam Boutata. Prise de son, Pierre Monteil. Réalisation, Guillaume Baldi. Une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky. Lundi, Romain Rolland, au-dessus de la mêlée.